Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science Publique. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Va-t-on enfin parvenir à stocker l'énergie solaire ? Le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été définitivement adopté le 22 juillet 2015. Il vise une augmentation de la part des énergies renouvelables à 32% d'ici 2030. Par ailleurs, l'Union européenne s'est fixé un objectif de 20% de la consommation finale d'énergie, donc en énergie renouvelable, pour 2020. Ces objectifs apparaissent pour le moins ambitieux étant donné la situation actuelle. Les énergies renouvelables apportaient 14,2% de la consommation finale d'énergie en France en 2013. Le solaire photovoltaïque, lui, se place en queue d'un peloton dominé par l'énergie hydraulique. Il représente, suivant les chiffres, entre 1,5 et 3% de la consommation d'électricité en France. Le solaire, comme l'éolien, conserve un talon d'Achille majeur, l'intermittence de son fonctionnement. Sa production dépend fortement de l'ensoleillement qui, lui, n'est pas lié aux besoins des consommateurs. D'où le fameux dilemme, comment stocker l'énergie solaire produite quand il fait soleil pour pouvoir l'utiliser quand nous en avons besoin, c'est-à-dire aussi bien la nuit que les jours sans soleil. Le défi est avant tout technologique et il est lié à un problème inhérent à l'électricité, la difficulté de la stocker. Or, le solaire thermique, lui, échappe en partie à ce phénomène. Le chauffe-eau sert d'accumulateur et il n'est pas nécessaire d'attendre un rayon de soleil pour pouvoir prendre une douche chaude. Avec l'électricité, c'est beaucoup plus délicat, malgré les progrès réalisés par les batteries. Nous allons explorer aujourd'hui quelques-unes des technologies capables de donner au solaire, les moyens de résister aux nuages. Nous recevons en effet en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Pierre Fessler, cofondateur et président de la société Levisys, Gilles Flamand, directeur du laboratoire Promes du CNRS à Odeillo et Perpignan, Philippe Poggi, professeur en énergétique dans le laboratoire Sciences pour l'environnement du CNRS et de l'Université de Corse et directeur de la plateforme MIRT, Xavier Puy, professeur en génie des procédés et vice-président recherche à l'Université de Perpignan, également chercheur au laboratoire Promesse. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Xavier Puy, bonjour. Vous êtes en duplex théoriquement avec nous depuis les studios de France Bleu Roussillon à Perpignan. Vous nous entendez ?
Parfaitement, je vous remercie.
Très bien. Alors, vous êtes d'ailleurs en compagnie de Gilles Flamand qui va également participer à cette émission. Et pour comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui, peut-être faut-il préciser pourquoi il est si difficile de stocker l'énergie solaire.
Eh bien, effectivement, on peut voir ça de différentes manières. Il y a certains secteurs pour lesquels on sait stocker l'énergie solaire, comme vous l'avez mentionné. Les systèmes de stockage domestique, type eau chaude sanitaire, ce sont des choses qui fonctionnent très bien à l'heure actuelle. Dans le même ordre, à plus haute température, on utilise le même type de principe sur des centrales électrosolaires thermodynamiques, en chauffant non pas dans l'eau, mais dans des sels fondus. Donc ce sont des choses qui fonctionnent bien. Maintenant, quand on veut stocker autre chose que de la chaleur, et notamment l'électricité, à grande échelle, ça peut présenter un certain nombre de problèmes. Donc il y a des grands programmes de recherche sur des systèmes de stockage dans des cavernes par compression d'air, adiabatique, etc., qui se développent. Mais il y a quand même pas mal de verrous à lever. Alors, comme vous l'avez dit, des technologies quelquefois existent, mais il y a différents types de verrous. Quelquefois, il y a des problèmes de disponibilité de matières premières pour développer les systèmes à grande échelle. Et le problème aussi, quelquefois, de réglementation. Et donc, il y a encore un certain nombre de défis et de verrous à lever. Mais bon, globalement, on dispose quand même aujourd'hui d'un certain nombre de techniques qui pourraient permettre, effectivement, de stocker, et pas seulement stocker, de convertir l'énergie solaire donc à d'autres niveaux de température ou de puissance, et donc valoriser cette énergie pour l'offrir à l'utilisateur.
Alors, on va justement en explorer certaines de ces solutions. Gilles Flamand, bonjour.
Bonjour.
Donc vous dirigez ce laboratoire Promes qui a annoncé en juillet 2015, donc il y a très peu de temps, avoir développé dans le cadre d'un projet européen une nouvelle technique de stockage de l'énergie solaire qui est assez technique, il faut le reconnaître. Il s'agit d'utiliser des particules solides. Alors nous y reviendrons sans doute, mais en quelques mots, quel est le principe ?
Alors, tout d'abord, il faut préciser que non seulement il faut stocker, mais il faut pouvoir charger et extraire, hein. Donc, en fait, le problème du stockage thermique n'est pas, ne se résume pas à faire des grands bacs dans lesquels on va mettre un matériau qui va stocker la chaleur, mais également, il faut savoir remplir ce bac de chaleur, donc monter, élever la température du système, et ensuite extraire de ce bac donc la chaleur stockée. Donc, ce que nous proposons, c'est une nouvelle façon en même temps de charger et de décharger le stockage et en même temps de remplir avec le même matériau le bac. Alors, cette technique est si vous voulez, est relativement simple à définir. En général, aujourd'hui, on utilise des liquides. Donc, si on raisonne simplement, on va dire, qu'est-ce qui peut se comporter comme un liquide? Eh bien, des petites particules que l'on met en suspension dans un gaz peuvent se comporter lorsqu'on les regarde, de toute façon c'est très très, je dirais, visuel, se comportent comme des liquides, c'est-à-dire qu'ils font des bulles, peuvent se mouvoir, etc. Alors, ce qu'il y a comme physique derrière, c'est relativement simple, c'est-à-dire que si vous prenez des grosses particules, alors grosses particules pour nous c'est déjà au-dessus de 100 microns, donc c'est pas très très gros, eh bien, lorsque vous le mettez dans l'air, les forces qui s'exercent sur ces particules, elles sont liées essentiellement à la vitesse de l'air. Bon. Maintenant, si vous prenez des petites particules, nous, c'est des particules autour de 50 microns, c'est à peu près le diamètre d'un cheveu, donc c'est vraiment, vous voyez, c'est petit. Eh bien, ces particules-là n'ont plus un comportement individuel, mais ont un comportement collectif. Et donc, ce comportement collectif permet, en fait, d'imprimer cet ensemble de particules le comportement d'un liquide. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on ne va plus jouer sur la vitesse de l'air, mais en fait sur la pression. Donc vous savez que pour faire monter par exemple un liquide dans une colonne, faut appliquer une pression. Et là c'est exactement pareil. Pour faire monter notre système donc de particules dans de l'air, faut appliquer une pression. Et donc tout le système est équivalent. Il y a des vannes, etc. Donc l'astuce de notre nouveau système, c'est d'utiliser ces petites particules exactement comme un liquide, mais en jouant sur des pressions de l'air qu'on implique dans le système. Voilà. Donc et à partir de là, on peut effectivement véhiculer la chaleur dans les particules, stocker la chaleur dans ces particules et ensuite extraire la chaleur de ces particules par un échangeur, etc. Donc voilà, c'est un peu le principe de base. Alors le gros intérêt, c'est quoi? C'est d'une part qu'on peut aller à très haute température. Si vous prenez des particules réfractaires, vous pouvez monter à 1000 degrés et plus. Et puis ensuite, c'est réduire les coûts parce qu'il existe des matériaux donc qui sont très très bon marché, donc de type solide. Et en particulier, donc Xavier développe des matériaux recyclés, il va en parler tout à l'heure. Mais également, même des matériaux qui existent aujourd'hui, elles ont un facteur le rapport de coût entre les sels fondus et ces matériaux, c'est un facteur 10. Donc on peut baisser le coût du stockage d'un facteur 10. C'est absolument énorme. Voilà.
Donc, alors il faut rappeler. Il faut rappeler que tout cela se passe donc à Odeo, qui est un four solaire, qui lui est très à l'origine thermique déjà, puisqu'il s'agit de concentrer les rayons qui sont réfléchis par des miroirs sur une petite surface, et ensuite donc d'exploiter cette chaleur. Dans ce cas précis, vous nous dites que cette chaleur est stockée dans ces particules qui ensuite servent à alimenter par exemple une turbine et reproduire de l'électricité.
Oui, c'est absolument le principe. Donc, puisque lorsqu'on convertit l'énergie solaire par voie thermique, il y a en fait deux niveaux. Capter l'énergie solaire et donc la stocker. Et puis ensuite, convertir cette chaleur en électricité donc par une machine ce qu'on appelle une machine thermodynamique, c'est-à-dire une turbine qui convertit la chaleur en électricité. Donc effectivement, il y a deux étapes. C'est ce qui distingue le stockage thermique pour l'électricité. Du stockage électrochimique, où là, on stocke vraiment l'énergie électrique directement dans le même système.
Alors, une autre solution, très différente. Philippe Poggi, bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est la plateforme MIRT que vous dirigez, qui a été installée à Ajaccio, en Corse, et qui a pour objectif, justement, de tester le stockage de l'énergie solaire en faisant appel à l'hydrogène. Alors, nous avons consacré déjà plusieurs émissions à l'hydrogène comme solution d'avenir pour le stockage de l'énergie, en particulier via les piles à combustible. Et c'est justement le système utilisé par MIRT. Comment fonctionne-t-il, Philippe Poggi?
Alors, le système, d'accord, là, on n'est pas sur du thermique, on est bien sur de la production d'énergie électrique à partir de panneaux photovoltaïques. Donc, on convertit le rayonnement solaire directement en électricité. Cette électricité, elle fluctue au cours du temps, elle fluctue dans la journée, période de nuit, période de jour. Et l'un des moyens de pallier cette difficulté, comme l'a souligné tout à l'heure Xavier, c'est de faire du stockage. Et nous on est parti sur, je prends cette électricité, je mets un électrolyseur, donc je prends de l'eau, je casse la molécule d'eau avec de l'électricité, je produis donc deux gaz, le dihydrogène et le dioxygène, je stocke ces deux gaz, et lorsque j'ai besoin d'énergie électrique, à des moments bien particuliers, on reviendra dessus tout à l'heure, ben je reproduis de l'électricité à travers une pile à combustible, processus inverse. Je produis quoi ? Je produis de l'électricité, de l'eau et de la chaleur.
Sachant que l'avantage de cette transformation en hydrogène, en dehors de cet aspect stockage, c'est qu'éventuellement cet hydrogène peut être transporté, ce qui est assez délicat avec l'électricité.
Donc là, c'est exactement ça, c'est qu'on crée ce qu'on appelle un vecteur énergétique. Donc je le produis à un endroit, je peux le stocker. L'avantage, c'est que je vais le stocker, je ne vais pas perdre d'énergie au cours du temps, parce qu'il y a normalement, il n'y a pas de fuite. Et ensuite, je peux le transporter et l'utiliser là où j'en ai besoin. Donc ça, c'est l'un des avantages de l'hydrogène. L'autre avantage de l'hydrogène, c'est que il peut rendre des services autres que de l'énergie électrique. Je peux l'utiliser, l'injecter dans des réseaux de gaz, et je peux venir sur de la mobilité, avec des véhicules hydrogène qui vont avoir des autonomies de déplacement beaucoup plus importantes qu'une voiture qui a une batterie ion-lithium à l'intérieur. Donc ça, c'est l'avantage de ce type de technologie.
Vous n'avez pas créé encore une pompe à essence, à hydrogène
ça se fait,
à Ajaccio.
Alors non, pas encore. Il y a un programme de recherche qui a été déposé récemment sur le sujet. Ça se fait, ça existe, puisque nos voisins allemands le font, les japonais le font, les américains aussi. L'idée générale là-dedans, c'est de dire, je produis un produit dérivé de l'hydrogène et je veux qu'il soit décarboné. Parce que l'enjeu aujourd'hui, surtout sur les territoires comme les îles, c'est de dire, j'utilise de l'énergie décarbonée, du photovoltaïque, j'utilise des usages comme des véhicules, il faut que je garantisse que mon usage utilise une énergie qui est complètement décarbonée. Donc là, l'idée, c'est que je produis de l'hydrogène qui provient d'une source renouvelable.
Voilà, et qui, quand elle est utilisée, n'émet pas de gaz à effet de serre.
Exactement.
Ce qui est très important, justement, à la veille de la fameuse COP21, la conférence sur le climat, qui aura lieu fin novembre. Pierre Fassler, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va voir que là, il y a une vraie gamme de solutions, parce que la vôtre n'est pas celle à laquelle on penserait immédiatement. Vous avez créé une entreprise, donc, avec Michel Saint-Mieux, c'est cela ?
Absolument.
En 2004, oui. Qui développe une solution très différente que pour le stockage, entre autres, de l'énergie solaire, et une solution mécanique cette fois. Alors, vous faites appel au volant d'inertie, et cette méthode qui semble dater d'un autre âge. Juste avant l'émission, vous nous rappeliez que les potiers, il y a 5000 ans, utilisaient déjà cette caractéristique de ce volant d'inertie qui tourne à grande vitesse pour stocker de l'énergie.
Absolument, le volant d'inertie, c'est probablement le premier moyen de stockage inventé par l'homme, puisqu'il y a 5000 ans, les potiers ont réalisé qu'ils permettaient de faire des bien plus belles poteries lorsqu'elles étaient placées sur un gros bloc de pierre qui faisait tourner. Et c'est l'inertie de ce bloc de pierre qui permettait d'éviter toutes les irrégularités de leur sculpture.
Voilà, quand on lance une masse en mouvement,
elle acquiert de l'énergie cinétique, c'est le principe du volant d'inertie. Alors, on s'est permis de la moderniser un peu.
Comment vous êtes arrivé à cette technologie ? Pourquoi l'avoir choisie, elle, et pas une autre ? Qu'est-ce qui s'est imposé dans votre démarche ?
Alors, si vous voulez, c'est une étude de la Commission européenne qui s'appelle Investir, qui est parue en 2003. Et étude qui comparait les différents moyens de stockage entre eux. Et la conclusion des experts qui ont réalisé cette étude était de dire que le volant d'inertie aurait un très bel avenir dans le cadre de la transition énergétique, dès lors qu'on arriverait à améliorer leur rendement et diminuer leur coût. Voilà. Et donc ça a été, si vous voulez, les deux critères qui ont guidé le développement stratégique de notre produit et de notre société. Et je crois qu'on est sur le point d'aboutir.
Alors justement, deux mots sur le fonctionnement. Passer du potier au stockage d'énergie solaire, c'est pas forcément évident à comprendre. Comment ça va se présenter et à qui ça va servir ?
Voilà, donc d'où, si vous voulez, les choix technologiques que l'on a fait, c'est d'utiliser un rotor en fibre de carbone que l'on a développé, co-développé avec Airbus Industrie, ce qui nous permet d'avoir une densité d'énergie très importante, c'est-à-dire une énergie maximum pour une masse minimum. Ce rotor évolue dans un vide secondaire poussé pour éviter les frottements aérodynamiques. Et on a la particularité d'utiliser un système de lévitation magnétique passive, qui permet à ce rotor d'évoluer sans frottement avec son entourage immédiat.
En même temps, la fibre de carbone est souvent connue pour sa légèreté. Donc...
Absolument. Mais si on résout quelques équations, on se rend compte que le rotor est d'autant plus performant que sa résistance mécanique est grande et que sa densité est faible. Ça peut paraître surprenant, mais c'est comme ça.
Donc on va faire confiance aux équations.
Voilà. Donc, si vous voulez... Donc,
concrètement, à qui va pouvoir utiliser cette solution et comment elle se présente? Est-ce que c'est gros?
Alors, un volant d'inertie qui fait 10 kWh en énergie stockée, c'est l'objet que l'on caractérise actuellement. Ça se présente sous la forme d'un cylindre qui fait à peu près 1 mètre cube en volume. 10 kWh, c'est 50 000 litres d'eau qui chuterait d'une hauteur de 100 mètres, hein, pour vous donner une idée de l'énergie que ça représente. Et donc, contrairement à mes collègues qui stockent l'énergie solaire, l'électricité solaire, soit par un vecteur thermique, soit par un vecteur chimique, nous, notre vecteur, il est mécanique. Et il présente l'avantage d'être extrêmement réactif à toutes les perturbations qui peuvent arriver, un nuage qui passe, etc. Et il présente également l'avantage d'une très grande cyclabilité. On va pouvoir utiliser notre objet sur 20 ans en faisant 500 000 cycles, c'est-à-dire 100 fois plus que les meilleures batteries électrochimiques. Voilà où on se situe. On n'essaie pas de faire du stockage saisonnier ou du stockage hebdomadaire. On est là pour réguler la production solaire sur quelques minutes ou au niveau de l'heure.
Donc quand il y a une surproduction d'énergie solaire par rapport aux besoins,
on l'absorbe.
Vous l'absorbez dans le disque en le faisant tourner.
Quoi. Absolument, on augmente sa vitesse.
Voilà, et ensuite ce disque, une fois qu'il est mis en rotation, reproduit du courant quand on en a besoin, et donc là est freiné par cette production de courant.
Absolument, et c'est une machine électrique qui fait l'intermédiaire entre le rotor où l'énergie cinétique est stockée et le réseau.
C'est un peu comme une voiture qui freine et qui recharge ses batteries d'une certaine façon.
Absolument.
C'est le même,
c'est
le même système.
C'est le même principe.
Là, vous parlez de grosses installations quand même, 10 kWh. Est-ce qu'on peut imaginer des petites alimentations installations de stockage sur ce principe qui pourraient concerner, par exemple, une maison, puisque dans une maison équipée de panneaux solaires, l'un des gros problèmes est de stocker cette énergie. Est-ce que ça, c'est une solution adaptée ou pas?
Alors, le produit que l'on développe aujourd'hui, il est plutôt voué à des applications industrielles que particulières. On n'écarte pas naturellement ce marché, mais ça demanderait des adaptations, parce que l'énergie dont a besoin une famille n'est pas la même que ce dont a besoin le monde industriel. Et nous sommes actuellement en cours de fabrication de 10 volants, qui vont être installés dans un démonstrateur à Toulouse, qui a reçu un financement de l'ADEME et des investissements d'avenir. Ce grand démonstrateur est piloté par la SCLE SFE du groupe Cofeli Ineo d'Engie. Et on va installer 10 volants, 5 d'ici à la fin de l'année, 5 autres en début d'année prochaine. On disposera là-bas de 100 kWh d'énergie, 100 kW de puissance, couplé à des panneaux solaires et des éoliennes, et on va faire une démonstration en vraie grandeur.
Donc là, il s'agit d'une centrale, en fait.
Absolument, petite centrale de stockage, oui.
Une centrale de stockage dans laquelle on va pouvoir réguler la production, finalement, de courant.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on aura une production indépendante du passage des nuages.
Voilà, absolument, en particulier.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Nous débattons aujourd'hui la question « Va-t-on enfin parvenir à stocker l'énergie solaire ?» avec nos invités, Pierre Fessler, cofondateur et président de la société Levisys, Gilles Flamand, directeur du laboratoire Promesse du CNRS à Odéo et Perpignan, Philippe Poggi, directeur de la plateforme MIRT en Corse, et Xavier Pi, professeur en génie des procédés à l'université de Perpignan. Alors on a vu déjà avec ce premier panorama, l'extrême diversité des solutions. Pierre Fessler le rappelait à l'instant, on est passé de la thermodynamique à la chimie et à la mécanique, et encore on n'a pas totalement évoqué toutes les possibilités. On n'a pas parlé de la compression d'air dont on parlait avant cette émission, qui sert à stocker, par exemple, dans des grottes, l'énergie sous la forme d'air comprimé, les barrages hydroélectriques avec ce qu'on appelle les STEP, qui permettent de remonter de l'eau dans un barrage grâce à l'énergie renouvelable qui est en excédent. Et voilà, donc aujourd'hui il y a toute cette floraison, et on se demande justement si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise, c'est-à-dire que ça voudrait dire qu'aucune d'entre elles ne s'impose particulièrement et qu'on est encore dans cette phase de recherche d'une bonne solution. Est-ce que, par exemple, les résultats de votre expérimentation, Philippe Poggi, conduisent à une conclusion? Vous avez cette plateforme MIRT, qui est une plateforme expérimentale. Quels sont un petit peu les résultats?
Alors, avant de répondre à votre question, je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur les différentes filières de stockage. Vous avez le même problème sur les différentes filières de production. Aujourd'hui, tous les réseaux ont un mix énergétique. Eh bien, sur les filières de stockage, ça va être la même chose. Il va y avoir un mix des filières de stockage parce qu'elles sont toutes complémentaires. Alors nous, sur la plateforme, donc maintenant on revient sur nos résultats, nous on a testé trois types d'applications. La première qui nous est venue à l'esprit, c'est je produis de l'énergie solaire dans la journée, sauf que j'ai de la pointe de consommation le soir. Donc pendant ma période de production d'énergie solaire, je vais stocker de l'énergie. Donc je produis mon hydrogène. Et le soir, pour répondre à un service réseau, je vais injecter de l'énergie sur une consigne EDF. Donc c'est ce qu'on appelle de l'écrêtage de la pointe. Ça, c'était la première application. Donc, ça marche très très bien avec ce type de technologie. Le deuxième, qui concerne ce que font très bien les volants d'inertie, le lissage. Une centrale photovoltaïque, une éolienne, au cours d'une journée, elle a un signal qui peut être très haché, avec des variations brutales en moins de 5 minutes. Donc on a voulu le tester sur le type d'équipement. Alors ça marche un peu moins bien parce qu'on a deux équipements qui ont des temps de réponse qui ne correspondent pas à cela. Et donc l'idée serait peut-être de se dire, ben, je mets un volant d'inertie pour me permettre de passer mes transitoires, échelle de temps très courte, et ensuite derrière, qui permet d'allumer mon électrolyseur ou ma pile à combustible, et lorsque l'équipement est en marche, je bascule sur notre système de stockage. Et le deuxième point que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est j'ai des unités de production. Le problème, c'est que la puissance qu'elle fournit au cours du temps, elle n'est pas garantie. Et donc, comment j'associe une brique de stockage pour garantir une puissance donnée au cours du temps? Et ça, c'est ce qu'on a testé, qui marche très bien. On a fait l'expérimentation à titre pédagogique, on dira, le jour de l'éclipse. On s'est dit, cette journée-là, je veux que notre système, la centrale photovoltaïque et la chaîne hydrogène, me produisent une puissance constante tout au cours de la journée. Et donc, ça marche relativement bien.
Est-ce qu'on a une idée quand même de la limite du système? C'est-à-dire, j'imagine que si la période sans soleil dure trop longtemps, ça sera difficile de lisser à la fois les variations, mais aussi de répondre à la demande de ce qu'a ce produit.
Les outils qui sont extrêmement importants, c'est ce qu'on appelle les outils de dimensionnement. Lorsque vous voulez faire du stockage, la première question c'est, je fais du stockage, pourquoi faire? Et pendant combien de temps? Donc ensuite, d'ailleurs, je vais dimensionner mon stockage pour répondre à ses besoins, et la source primaire qui va venir alimenter ce stockage. Quand vous parlez sur l'hydrogène par rapport à des batteries électrochimiques, c'est qu'on a une chance énorme, c'est qu'on dissocie ce qu'on appelle puissance d'énergie. La puissance d'utilisation, c'est votre pile à combustible. L'énergie, c'est le nombre d'heures qu'elle va pouvoir fonctionner. Et ce nombre d'heures, c'est la quantité de réservoir que vous avez derrière d'hydrogène. Donc cette quantité d'hydrogène, elle va dépendre de la taille de l'électrolyseur qui va devoir fournir le volume d'hydrogène nécessaire et le nombre de stockage. Donc là, par exemple, on a 17h30 de fonctionnement à pleine puissance. On aurait pu en mettre 50, 100. J'aurais augmenté la puissance de mon électrolyseur et le nombre de citernes derrière.
Donc c'est pas un problème de principe, mais un problème de dimensionnement, au fond.
Oui, voilà.
Le résultat que l'on obtient. Est-ce que, Gilles Flamand, pour ce qui est du four d'Odeio et de l'expérimentation que vous avez menée, dont vous avez publié les résultats, quelles seront les applications potentielles de ce système, où en êtes-vous en termes de son développement?
Alors, je voudrais revenir très 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 rapidement sur seulement cette prolifération là pour des technologies. Hein. Simplement pour indiquer qu'effectivement il faut considérer le très court terme, le moyen terme et le long terme. Hein. Donc le très court terme c'est volant d'inertie, les moyens termes c'est effectivement tout ce qui concerne les batteries, le stockage thermique, etc. Et puis aussi la solution chimique, hein, comme vient d'être indiqué. Mais effectivement le long terme, c'est les solutions chimiques, parce qu'effectivement on peut garder l'hydrogène pendant très longtemps, etc. Bon, voilà. Donc ça, je pense que c'est pour ça que c'est, il y a cette prolifération, et c'est très bien, parce que je pense qu'aujourd'hui, justement, les énergies renouvelables ne se ressemblent pas, et chacune et chaque lieu d'utilisation n'est pas le même, et donc ça veut dire qu'il faut effectivement mettre en place des solutions différentes pour chaque situation et chaque chaque source d'énergie. Et donc ça, c'est très bien. Et c'est, il faut pas chercher la solution unique. C'est une fausse piste. Ça, c'est très franco-français parce que on a voulu tout faire nucléaire. Et c'est exactement la même démarche. Donc, on arrête maintenant. Transition énergétique, c'est la diversité et c'est parfait. Donc, ah, oui, avec, je vais répondre à votre question sur.
Excusez-moi. À la différence près que plus le nombre de technologies est grand, plus la mise au point de chacune et son arrivée à maturité va prendre du temps et ensuite il faudra les coupler. Enfin, c'est quand même oui, plus complexe d'une certaine façon.
C'est vrai, vous avez raison, mais on ne part pas de zéro. C'est-à-dire que maintenant, les technologies sont des associations de composants que l'on connaît déjà plus ou moins, qu'on va développer. Donc, on va associer des composants pour lesquels, en fait, le niveau de développement n'est pas le même. Et donc, je pense que voilà, ça peut être pondéré par le fait qu'on n'est pas en train de tout redécouvrir. Hein, voilà.
D'accord.
Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Alors, pour vous, pour répondre à votre question, donc, aujourd'hui, on a fait une expérience qu'on appelle pilote, hein, c'est-à-dire qu'on a fait fonctionner un système qui produit de l'énergie thermique à 150 kW, hein, ce qui est déjà pas mal. Mais on n'a pas passé l'étape de la conversion de la chaleur en électricité, mais ça, c'est, je veux dire, on sait faire. Pour développer la technologie à un niveau pré-industriel, il faut que l'on passe une étape supplémentaire qui est, pour faire simple, multiplier par 10 ou par 20 cette puissance. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un démonstrateur industriel, mais on a les outils en France pour le faire. On a l'ancienne centrale Thémis qui est juste à côté du four solaire et notre projet futur, hein, c'est de faire une démonstration à cette échelle avec une turbine qui pourrait faire entre 1 et 2 mégawatts. Et donc là, on est au niveau pré-industriel. On fera notre but, hein, c'est d'arriver à montrer que ça peut fonctionner avec un stockage sur particules pendant, disons, sur une journée classique, 14 heures ou 15 heures. Hein. Et donc ça, c'est le but. Donc en fait, on est juste avant la démonstration industrielle. On a fait un pilote et vous savez, il y a des échelles, hein, qui sont, et je ne vais pas utiliser le mot technique, mais grosso modo, c'est une échelle entre 1 et 10. On est à peu près au milieu, quoi. On est au niveau 5. Mais pour passer dans l'industrie, il faut passer au niveau 8 ou 9 au moins. Et donc voilà, on a quelques barreaux d'échelle à franchir pour arriver au bout. Mais je suis très très optimiste parce que on a démarré en 2010. Donc passer de l'idée qui a été brevetée en 2010 à un pilote de laboratoire à ce niveau-là, c'est pas mal, c'est assez rapide. Donc je pense que dans 5 ans, sans problème, il y aura la démonstration et on pourra être sur, je dirais, offrir une technologie nouvelle parce que c'est vraiment une technologie très originale. Hein, on est les seuls au monde à faire ça et qui permettra de, probablement, ce sera une petite révolution dans les centrales solaires.
Très bien. Alors, justement, peut-être qu'on peut enchaîner avec la question qui est la question fondamentale un petit peu en matière de stockage et aussi d'énergie renouvelable, qui est la question du rendement. Alors, il se trouve que les énergies renouvelables ont des rendements qui sont souvent pointés du doigt comme étant une faiblesse de leur principe même de fonctionnement. Mais si on rajoute le stockage, en général, on rajoute une perte de rendement parce que il y a une transformation supplémentaire, qu'elle soit thermodynamique, chimique, ou mécanique. Et donc, le risque, c'est que, en ayant rajouté cette brique indispensable pour avoir une continuité de fourniture de l'énergie, eh bien, on dégrade le rendement. Alors, peut-être que sur cette question, on peut faire un petit tour partons des volants d'inertie. Est-ce que, Pierre Fessler, aujourd'hui, on peut annoncer un rendement de votre système et aussi un rendement, du coup, un rendement global quand vous avez installé un système dans une centrale solaire, par exemple.
Oui, absolument. Je pense que la question du rendement est une question absolument cruciale. Je voulais tout de même dire que je partage l'avis de mes collègues sur la complémentarité des moyens de stockage, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'hybridation. Les moyens de stockage, volant d'inertie avec l'électrochimie, l'hydrogène, et pourquoi pas le thermique. C'est comme ça qu'on va faire naître une solution performante. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le développement de notre technologie a été axé autour du rendement et du prix. Et pour le rendement aujourd'hui, je peux vous annoncer, ce n'est pas des calculs, mais ça relève de mesures, un rendement de l'ordre de 97% sur nos objets, électronique de puissance comprise.
Et là, c'est le rendement du stockage.
C'est le rendement
c'est la différence entre l'énergie que vous avez reçue et celle que vous restituez après.
Absolument.
Étant entendu, un rendement énorme.
Qui est un rendement extrêmement important. Je me demande d'ailleurs dans quelle mesure on n'atteint pas là le meilleur rendement en termes de stockage. Il faudrait vérifier ça de près. Étant entendu que nous n'utilisons pas de système de climatisation pour faire fonctionner nos volants. Ils sont simplement mis dans des silos. Donc on ne dépense pas d'énergie supplémentaire pour les maintenir à température, les réguler, etc.
Et ça chauffe ?
Non, très très peu. Non, très très peu. On a quelques centaines de watts de pertes et ça chauffe très très peu.
Alors voilà, déjà un premier résultat donc avec le volant d'inertie. Philippe Poggi, là vous êtes peut-être aussi en mesure de nous donner un résultat pour ce qui est de la solution hydrogène.
Oui, tout à fait. La question du rendement est une question récurrente. Donc, le dispositif que l'on a mis en place nous a permis de calculer ce rendement électrique. Je dis bien rendement électrique. Donc là, je produis de l'hydrogène, je le stocke, je restitue de l'électricité. Donc, on a une chaîne qui a un rendement de l'ordre de 25 à 30% un rendement électrique.
Sur l'ensemble de la chaîne ?
Sur l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire donc c'est beaucoup plus faible qu'un volant d'inertie qui est à 97%.
Mais là, vous parlez de la partie stockage uniquement ou
stockage et restitution électrique.
Voilà, donc voilà. C'est à comparer aux 97%.
Oui, exactement. Bon, comparer aussi aux 20% d'un moteur thermique. Hein.
Voilà, enfin un peu plus quand même, j'espère.
Ben, 30%.
Ben, à 30%.
Ouais, Carnot, c'est 40. Hein. Voilà, donc j'ai bien dit thermique. Tout à l'heure, quand je vous ai présenté l'installation, je vous ai dit que la pile, elle produisait de l'électricité, de l'eau, et de la chaleur. Donc cette chaleur-là, qui est un flux énergétique, eh bien, il faut le valoriser. Donc à partir de ce moment que vous le valorisez, vous allez faire de la co, voire de la trigénération, parce que les niveaux de température le permettent, vous allez avoir un rendement énergétique qui va approcher les 80% de rendement.
Donc vous allez passer de 24 à 80.
Oui, parce que 24, c'est le rendement électrique, voilà. Et si je fais le rendement global de l'installation
énergétique,
on va monter à 80%. Donc là, on est sur du multi-usage, du multi-flux.
Très bien. Alors Xavier Py, peut-être resituer aussi le rendement global, parce que là on parle du stockage, mais il faut rajouter celui des capteurs solaires, hein, qui en général est considéré comme très faible. Alors c'est là aussi difficile d'avoir des chiffres absolument évidents, mais c'est en gros entre 10 et 15%. Est-ce que vous confirmez ces chiffres, ou bien est-ce qu'il y a des progrès qui sont envisagés, Xavier Py?
Alors c'est pas 10 ou 15%, hein, le rendement très global entre le solaire qui arrive et puis l'électricité qui sort, on peut être dans des gammes de 15 à 20%. À des capteurs solaires, aujourd'hui, ça dépend des technologies, mais les capteurs solaires plans peuvent être à 50%, on peut monter même plus. Alors, moi, je reviendrai sur la notion de rendement, parce que là aussi, on a des schémas franco-français qui ont beaucoup évolué ces dernières décennies. Parler de un rendement, et souvent c'est très réducteur, on s'arrête au rendement purement technique, thermodynamique, énergétique de base. Je pense que c'est un peu une fausse route et aujourd'hui c'est quand même un peu dépassé. On doit aussi parler des rendements, il y a plusieurs rendements, surtout quand on parle des énergies renouvelables, où de fait vous allez immobiliser un certain nombre de matières premières, vous allez transformer pour fabriquer votre process de production, etc. Il faudra de l'énergie pour l'implanter, il faudra des gaz à effet de serre, etc. pendant sa production, au cours du démantèlement. Donc il y a aussi toute l'analyse de cycle de vie et donc il y a un rendement environnemental. Donc vous pouvez quand même avoir aujourd'hui un procédé qui, sur le plan purement technique, a un rendement de 98%. Mais vous aurez dépensé globalement sur toute sa vie plus d'énergie que ce qu'il aura restitué donc à la société. Et donc aujourd'hui, il faut considérer plusieurs types de rendements. Il y a le rendement dont vous parlez qui est important et qui est celui de l'ingénieur, et on a tous été éduqués comme ça. Il y a un rendement environnemental et en particulier pour ce qui est des process type énergie renouvelable dédiés à la transition énergétique qui doit être soutenable, qui doit avoir du sens. Il y a un rendement aussi sociétal qui est important, c'est-à-dire que la société attend un service. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, quelquefois on se moque un peu du rendement, c'est-à-dire les gens finalement sont assez peu regardants du rendement de leur réfrigérateur, quoique, enfin un peu bon, depuis quelque temps, mais de leur voiture, on a des rendements qui sont assez mauvais, mais ils veulent une voiture et ils veulent un service, ils l'ont. Et puis un rendement économique aussi, effectivement, c'est-à-dire que quand vous allez investir 200 millions d'euros pour une centrale électrosolaire de 50 mégawatts, le banquier, il veut savoir en combien de temps ça va rapporter de l'argent. Donc voilà, pour revenir à votre question, je peux vous répondre froidement et vous dire, source de la littérature à l'appui, que le rendement thermique aujourd'hui, on sait faire 98% de rendement. Il n'y a pas de problème, j'ai des références. Maintenant, ça me fait rigoler parce qu'effectivement, ben, est-ce que vous tenez compte des énergies parasites type l'énergie consommée dans les pompes, toute effectivement l'énergie grise contenue dans les enveloppes, dans les matériaux, etc. C'est rarement le cas. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans une véritable révolution en termes de démarche. Ou de plus en plus, et je pense que tout le monde autour de la table le fait de plus ou moins, on est quand même en cours d'adaptation là-dessus, on tient compte de plus en plus de l'ensemble des paramètres et des types de rendements à considérer. Et on hiérarchise effectivement ces rendements. C'est-à-dire que quelquefois, on fait le choix technologique de réduire le rendement thermodynamique d'un système pour le rendre plus environnemental. C'est des choses qui sont, par exemple, il y a des centrales thermiques aujourd'hui qui fonctionnent à des très bons rendements, enfin des bons rendements thermodynamiques parce qu'on utilise de l'eau pour refroidir le cycle. Aujourd'hui, utiliser de l'eau pour faire l'électricité, c'est quand même difficilement soutenable. On choisit de faire des refroidissements secs. On perd 7% de rendement sur la centrale, mais c'est pas grave parce qu'on considère que l'eau, on n'a plus le droit d'utiliser de l'eau pour faire l'électricité. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience de cette démarche-là.
Oui, vous avez mis le point sur une des critiques qui est souvent faite à l'énergie solaire en particulier, c'est que le bilan, si on l'étend à la production des panneaux et à toutes les étapes intermédiaires, le bilan énergétique et surtout le bilan CO2, par exemple, change complètement par rapport à une situation où on fait abstraction de tout ça. Est-ce que, Philippe Poggi, vous avez été jusqu'à tenir compte d'un bilan écologique, comme l'a dit...
Pas du tout. Mais c'est vrai que c'est la bonne remarque, c'est celle-là. Après, derrière, il y a le facteur économique. Si demain, vous avez un système qui a un rendement de 10%, mais qui vous coûte 0,0 du kilowatt, le rendement, vous allez le mettre de côté et vous allez installer votre système parce qu'il va rien vous coûter. Parce que c'est, en bout de course, la vraie vie, c'est celle-là. C'est combien ça me coûte, quoi.
Ouais. Ça, c'est le rendement économique.
Oui.
Mais il y a effectivement un calcul à faire sur si on raisonne plus écologie.
Sur écologie, après, il faut prendre la chaîne de valeur en entier. Mais il faut le faire pour tous les systèmes.
Alors effectivement, bien sûr, Pierre Fessler, par exemple, pour la fibre de carbone, sa fabrication, par exemple, puisque là, c'est plus des cellules photovoltaïques dont on parle, mais d'un système donc d'inertie. Est-ce que vous avez tenu compte de cette dimension de
Oui, absolument. Analyse absolument. Je crois qu'il ne faut pas opposer les rendements les uns aux autres. Il faut essayer de les améliorer sur les trois critères. Oui. Et nous, pour ce qui concerne la fibre de carbone, on utilise, si vous voulez, les procédés qualifiés de l'industrie aéronautique qui sont en train, que ce soit Airbus ou son concurrent Boeing, de développer des avions tout carbone et qui ont donc les procédés de fabrication opérationnels et qui ont également des filières, si vous voulez, de recyclage.
En même temps, l'aviation n'est pas forcément l'emblème idéal de la protection de l'environnement.
Alors, peut-être au niveau des moteurs, mais je crois que les choses s'améliorent de ce point de vue-là. Je ne vois pas de problème environnemental au niveau du carbone, ni dans sa fabrication, ni dans son démantèlement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en dire autant sur le lithium, par exemple, sur les batteries au lithium. Mais ceci étant, on est au début de la structuration des filières industrielles sur tous ces secteurs-là. Et nous, encore une fois, on a la chance de s'inscrire dans la filière industrielle de l'aéronautique sur cette affaire.
Alors la difficulté vient aussi du fait que rien n'est complètement stabilisé dans toutes ces technologies. On voit que par exemple en matière de capteurs, puisque le capteur là du coup redevient, même si le sujet d'aujourd'hui est le stockage, le capteur redevient un acteur important si on considère ce fameux bilan ou rendement environnemental. On voit qu'il y a plein de nouveaux développements, une société qui développe des modules solaires flexibles par exemple, avec des rendements d'ailleurs très importants, l'Université de Californie qui utilise du stockage inspiré par la photosynthèse avec des cellules organiques polymères fullerènes, donc autre chose que le fameux silicium. Et on voit aussi des entreprises très importantes comme Tesla qui crée des batteries, la maison mais au lithium effectivement, pour équiper des domiciles avec un stockage intermédiaire. Il y a tout un flot d'innovations qui d'ailleurs est continu et que dont la plupart finalement peut-être n'arrivent pas à leur terme. Donc il est assez difficile de se faire une idée de ce que le solaire sera le jour où elles arriveront. Il y en a une qui va percer et qui va s'imposer. Donc la question est de savoir, Gilles Flamand par exemple, c'est comment vous qui êtes dans l'énergie solaire depuis un certain temps, on va dire, et comment vous voyez cette évolution là, cette évolution technologique qui a du mal finalement à trouver ses marques?
Alors je vais vous livrer un secret, ça fait 40 ans, donc en septembre,
il me semble
je suis
bien.
Septembre 75 au DIO, donc voyez, donc c'est vieux. Donc j'ai vécu pas mal d'aléas du solaire. Hein, donc par rapport à votre remarque, je pense que la question que vous posez par rapport à, enfin qui est derrière votre remarque sur les innovations, c'est que il peut y avoir des innovations très intéressantes, mais se pose également la question de la durée. De vie des systèmes. Vous avez parlé par exemple des solutions organiques, etc. C'est très intéressant effectivement du point de vue du principe, mais par contre la durée de vie pour l'instant est encore insuffisante. Hein. Donc on est à des ordres de grandeur de moins d'un an ou de l'ordre de grandeur de l'année. Donc c'est relativement difficile de effectivement aujourd'hui de baser une technologie sur une durée de vie si courte, mais ça va s'améliorer, hein. Il y a aucun doute. Ensuite pour donner des chiffres, hein, on a parlé de l'impact environnemental, etc. Le retour énergétique, hein, du solaire photovoltaïque par exemple aujourd'hui, c'est 2 ans, hein, c'est-à-dire que vous avez produit l'énergie nécessaire à la fabrication des cellules. Pour le solaire concentré, donc sur lequel le laboratoire est spécialisé, hein, c'est moins d'un an. Donc vous voyez que on n'est pas du tout dans des chiffres aberrants du point de vue du retour énergétique. Hein,
voilà. Pour des durées de vie de combien justement hein, en termes alors, de capteurs photovoltaïques?
On est sur des durées de vie de 25-30 ans hein, aujourd'hui sans problème. Hein. Aujourd'hui les fabricants vous vendent des cellules avec une garantie à 20 ans avec 80% du rendement initial. Hein, donc pas de souci. Hein. Non, ça avance très très bien dans ce domaine-là. Hein. Alors il faut maintenant... que ça, c'est effectivement sur l'aspect captation, que la même chose se fasse au niveau effectivement des systèmes de stockage, hein, et qui permettront d'avoir une chaîne qui va être, je dirais, efficace hein, sur l'ensemble du système.
On va y revenir juste dans quelques secondes.
France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti.
Nous débattons aujourd'hui la question « Va-t-on enfin parvenir à stocker l'énergie solaire ?» avec nos invités, Pierre Fessler, cofondateur et président de la société Levisys, Gilles Flamand, directeur du laboratoire Promesse du CNRS à Odéo et Perpignan, Philippe Poggi, directeur de la plateforme Myrte en Corse, et Xavier Pi, professeur en génie des procédés à l'université de Perpignan. Donc je vous ai un petit peu interrompu, Gilles Flamand, vous étiez justement en train de nous parler de ce que vous allez faire, et je voudrais que l'on termine cette émission sur la question de l'avenir.
À la question de l'avenir, si vous voulez, une des spécialités du laboratoire, hein, c'est utiliser l'énergie solaire dite concentrée, c'est-à-dire qu'utilise des miroirs pour produire soit de la chaleur, soit de l'électricité, soit de ce qu'on appelle les vecteurs énergétiques chimiques, hein, donc de l'hydrogène, etc.
Excusez-moi, le four de l'installation d'Odéo date de quand?
Oui. Oh, l'installation de Deyo, elle a démarré au début des années 70. Hein. On était à l'époque la seule installation de cette taille dans le monde. Hein. Donc, c'est-à-dire que la France a été vraiment pionnière dans ce domaine-là. Alors évidemment, comme la politique énergétique en France a subi, on va dire, des grandes fluctuations, n'est-ce pas ? Et évidemment, on a perdu une bonne partie de cet avantage, puisqu'on a arrêté toutes les recherches dans le domaine du solaire thermique, au moins en France, pendant 15 ans. Donc il a fallu remonter la pente au début des années 2000.
Mais la technologie en 35 ans, cette technologie elle-même, elle s'est développée de quelle façon dans le monde ?
En fait, si vous voulez, si on prend l'exemple européen, les pays qui ont continué à faire des recherches dans le domaine de l'énergie solaire de façon très très active, en particulier du solaire concentré, c'est l'Allemagne et l'Espagne. Hein. Donc, ce sont aujourd'hui qui sont positionnés sur les marchés au niveau international. Bon, voilà. Donc, on a raté malheureusement, on a raté le coche industriel à ce niveau-là. Maintenant, on n'a pas baissé les bras. Justement, notre but, c'est de mettre en place la nouvelle génération de centrales solaires, c'est-à-dire une génération qui va vraiment faire un gap, je dirais un pas énorme dans le domaine du rendement. Pour faire simple, on veut passer d'un rendement qui est aujourd'hui de 20% à un rendement de demain à 30%. Et ça demande de mettre en place vraiment une nouvelle filière, une nouvelle technologie basée sur pas beaucoup de solutions, mais dont une des solutions, c'est l'utilisation des particules, et ça a le potentiel de le faire tout à fait à ce niveau-là. Donc voilà, donc maintenant on a perdu par exemple la bataille des sels fondus qui avait démarré à Témis il y a 30 ans, parce qu'on a arrêté de développer, alors qu'aujourd'hui c'est la filière qui est reconnue au niveau mondial la plus performante. Hein. Aujourd'hui, les centrales solaires les plus performantes au monde se construisent sur la filière sels fondus, dont la première version a fonctionné donc dans les Pyrénées-Orientales sur la centrale Témis, donc 83-86.
Pour avoir une idée globale, il y a combien de centrales sur ce modèle donc de la concentration et du thermique dans le monde?
Aujourd'hui, dans le monde, il y en a une centaine, grosso modo, mais il y en a quand même, pas loin de chez nous, en Espagne, il y en a une soixantaine, hein, même plus de 60-65, je crois, actuellement. Et dans le monde, c'est à peu près une centaine, mais actuellement, il y a un peu une course pas au gigantisme, mais aux très grandes puissances. Hein. Maintenant, on fait des centrales qui font 100-200 mégawatts. Hein. Donc, c'est déjà, on arrive pas tout à fait aux tranches nucléaires, mais on se rapproche progressivement des très très grosses puissances.
On est un peu dans l'ordre de grandeur, c'est 900 mégawatts.
Oui, c'est ça, on est dans les ordres de grandeur. On a dépassé la centaine de mégawatts. Là, la plus grosse centrale aujourd'hui, elle fait 300 mégawatts hein, quand même, bon, sur trois tours, mais bon, c'est sur le même lieu. Voilà. Donc vous voyez qu'on est sur des très grosses puissances, mais c'est pas forcément l'unique solution. Par exemple, la solution qu'on développe, on peut très bien la décliner donc avec les particules, à une échelle de petite et moyenne, hein, en utilisant des moteurs Stirling, hein, qui sont des moteurs dits à combustion externe. Mais nous, on ne fera pas de la combustion, ça sera le soleil qui va faire marcher les moteurs. Et donc, on peut très bien décliner ça à des niveaux de puissance entre 10 et 500 kilowatts à petite puissance. Et donc voilà. Donc on essaye de couvrir l'ensemble du domaine depuis les petites puissances jusqu'aux très grandes puissances. Et je pense que la technologie proposée a cette capacité.
Merci beaucoup Philippe Poggi. Vous, l'avenir, donc l'étape suivante, c'est de passer de cette plateforme de démonstration à autre chose. Quoi ?
Alors, évidemment, une démonstration, c'est fait pour valider un concept et des modes de fonctionnement. Donc, ensuite, après, c'est de déployer sur des territoires. Et l'enjeu majeur, il est de participer, de contribuer au changement de modèle que l'on a des réseaux électriques avec ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux électriques intelligents, dans lequel le solaire photovoltaïque et le solaire thermodynamique peut avoir un rôle important, puisque ce sont des énergies qui sont des énergies décentralisées, qui vont être au plus proche des consommateurs. Donc là-dessus, il faut complètement changer ce modèle de vision du réseau électrique. Et sur les territoires, bon, je reviens sur ce qui me concerne, sur les territoires insulaires, là-dessus, il y a un enjeu fort, parce qu'on a des productions qui sont fortement carbonées. On veut aller sur l'utilisation de nos ressources locales, du vent ou du soleil. Et donc forcément, il faut y développer de l'intelligence. Comment je pilote tout ça? Comment je mets du stockage là-dedans? Et quel type de stockage? Et comment je fais mon mix énergétique qui est un mix énergétique en moyen de production et en moyen de stockage pour répondre à des besoins. Alors l'enjeu, il est là et il faut qu'on y participe.
Donc j'imagine que pour la Corse, c'est une solution particulièrement adaptée puisque la production d'électricité est locale, forcément. On ne peut pas la faire venir du continent et qu'elle est essentiellement aujourd'hui réalisée par des centrales thermiques.
Alors sur le territoire de la Corse, on a quand même un raccordement. On est raccordé depuis 2005 à la Sardaigne. Donc on a un câble qui nous apporte 100 à 120 mégawatts. Mais qui pose des problèmes de gestion parce que le gestionnaire est obligé de préparer son plan et de l'envoyer à ses collègues sardes. On a une problématique majeure, c'est qu'on est un réseau donc faiblement interconnecté avec de l'intégration massive d'énergie renouvelable intermittente qui nécessite forcément du pilotage pour franchir cette barre technique et réglementaire des 30%. Donc faut réfléchir sur comment je pilote, comment je fais du stockage, est-ce que je fais du stockage réparti, du centralisé. Donc il y a toutes ces questions-là aujourd'hui, quel type de stockage je mets pour rendre quel service. Le réglage en fréquence, je vais y mettre des volants d'inertie, gros, quelle taille. Voilà, il y a toutes ces questions aujourd'hui qui se posent.
Pierre Fessler, alors justement, voilà un marché d'un besoin qui a été exprimé dès le départ par Philippe Poggig, de complémentarité entre l'hydrogène et le volant d'inertie.
Absolument, c'est avec plaisir qu'on ira installer des volants d'inertie en Corse, bien sûr. Alors nous, on croit bien sûr à l'avenir du solaire, à l'avenir du stockage, à un point tel que on est en train de développer un outil industriel dans la région de Troyes avec l'aide du conseil départemental dans le cadre d'un projet qui s'appelle FlyProd, qui est également financé par l'ADEME et les investissements d'avenir. L'usine est en train de sortir de terre. Nous y installerons une ligne pilote de production de volants d'inertie à hauteur de 100 volants par an qui sera opérationnel à partir de la fin de l'année prochaine. Donc nous aurons une technologie et nous aurons une capacité de production de telle manière à aller sur le marché et très concrètement apporter des services de régulation.
Donc 100 volants par an, ça signifie qu'on n'est pas prêt d'avoir un volant d'inertie à la maison pour stabiliser la production des panneaux solaires sur le toit.
Non, mais on peut imaginer pour un lotissement, pourquoi pas, ou à hauteur d'un quartier de ville. D'ailleurs, on a travaillé à un moment donné avec la ville d'ici, les Moulineaux, sur le projet ICI Grid. Ce sont des choses que l'on peut tout à fait envisager.
Alors, Gilles Flamand et Xavier Pi, puisque vous travaillez dans le fameux laboratoire Promesse que j'ai cité tout à l'heure, on peut quand même s'étonner que la France ayant été aussi pionnière, alors évidemment, Gilles Flamand nous a donné une clé, c'est ses 15 ans d'arrêt de la recherche sur les 30 dernières années, ce qui est quand même un gros trou, mais on peut se demander quelle sera la prochaine étape aussi d'Odeio et du four d'Odeio. Est-ce qu'une autre centrale pourrait trouver sa place en France sur le même principe?
Alors, je vais tenter de répondre à cette question. Donc, de toute façon, effectivement, au niveau d'Odeio, Témis et Perpignan, on ne s'arrête pas uniquement aux centrales électrosolaires thermodynamique pour produire l'électricité. On fait aussi de la chimie solaire, on fait tout un tas de choses, des matériaux en conditions extrêmes. Puis par rapport à l'avenir, parce que c'était aussi la question, on se pose la question de, par rapport à toutes ces technologies, comment on va arriver à passer le cap de la transition énergétique à l'échelle mondiale. Et dans ce cadre-là, est-ce que aussi au niveau des matières premières, on a ce qu'il faut? Et là, on se rend compte que là, il y a des verrous assez importants qui sont pas toujours effectivement considérés, et c'est là où on est rentré un petit peu en rupture technologique par rapport aux démarches de d'autres collègues d'autres pays qui eux n'avaient pas quitté la scène du solaire pendant un certain temps, pendant l'éclipse on va dire, et notamment au niveau du stockage, on s'est rendu compte que on serait certainement à court de matières premières pour certains types de stockage, si ça se déploie à l'échelle mondiale, par rapport aux attentes pour 2050 notamment. Donc c'est vraiment à court terme. Et donc on a lancé, c'est un exemple, une nouvelle voie depuis 5 ans, totale rupture technologique, qui consiste à utiliser les déchets industriels pour fabriquer les matériaux de stockage de demain. Avec une aide soutenue de l'État et des industriels, à coup d'ANR, de concours mondial d'innovation et avec des grands industriels comme EDF ou des PME.
Quels sont les matériaux en question dont vous parliez, les matières premières qui peuvent être des verrous technologiques dans ce domaine?
Alors, par exemple, on parlait des sels fondus des centrales électrosolaires qui sont utilisées aujourd'hui, c'est mature, ce sont des sels de nitrate. Donc le leader mondial en termes de production, c'est le Chili qui en produit 0,8 millions de tonnes par an. Et pour arriver à construire toutes les centrales électrosolaires qu'on devrait construire, il faudrait à peu près 20 millions de tonnes par an de matières premières de ce type-là. Donc il y a un véritable verrou si on veut développer à très grande échelle ces systèmes. Et donc nous, on va aller piocher là où il y a de la matière première. Et en rendant effectivement au passage un autre service en termes d'environnement et de société, c'est-à-dire que au lieu d'aller piller des ressources premières encore disponibles qu'il faut laisser aux générations futures, on va aller piocher dans nos propres déchets qu'on a accumulés, hein, rien que les cendres volantes des centrales thermiques au charbon, c'est 750 millions de tonnes par an à l'échelle mondiale, donc c'est des gisements monstrueux. Et on utilise ça comme matière première.
Voilà. Très bien, vous avez fait le lien entre effectivement le recyclage et l'énergie solaire, ce qui est une perspective plutôt enthousiasmante. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Pierre Fessler, Gilles Flamand, Philippe Poggi et Xavier Py d'avoir participé. Sur notre site, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an. Et bien entendu, vous pouvez nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. La semaine prochaine, vendredi 18 septembre, nous resterons dans le domaine de l'écologie avec une émission qui s'inscrira dans la semaine consacrée par les émissions de Culture Science au thème climat, comment vivra-t-on le jour d'après? Dans Sciences Publiques, nous nous intéresserons à l'un des grands sujets d'inquiétude engendrés par le réchauffement climatique, la perte de biodiversité. On parle désormais d'une sixième extinction massive des espèces, la première provoquée par l'homme. Est-il possible d'en réduire les effets? Nous en débattrons avec nos invités Denis Couvet, Éric Rochard et Benoît Fontaine. Sciences Publiques, Dany Journaud, Bruno Gagnère-Fontanille, à la technique pour France Bleu Roussillon, Stéphane Roger, Marie Dalquier, Michel Albergonti. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous, excellent après-midi sur France Culture.